Bonjour à tous.
Vous allez bien?
Oui. Et avant toute chose, évidemment, bonne fête nationale à tout le monde. C'est toujours une fête, hein, c'est non seulement c'est la fête nationale, mais en plus pour les Jumetois, c'est la Madeleine. Voilà. Et je trouve que c'est deux belles occasions, une belle occasion de célébrer et de se réjouir. Alors, on va pas terminer trop tard parce que Yvan après doit aller à la Madeleine. Il m'a dit, il avait préparé son petit uniforme. Il monte à cheval aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, hein, c'est une blague. Bien, eh bien, nous allons aujourd'hui mettre une parenthèse à la série sur le chrétien mature que nous avons commencé depuis quelques mois maintenant. Et nous allons aborder un autre thème, et la prochaine fois on reviendra sur le thème du chrétien mature. Et pour ça nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc. Et là, nous allons lire au chapitre 9, Luc 9. Versets 28 à 36. Luc 9, 28 à 36. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante, deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses deux compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Et un deuxième texte dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 9, encore une fois. Actes chapitre 9, et là, les versets 2 à 12. On va lire au partir du verset 1, comme ça ce sera d'autant plus clair. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit. « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». « Oui, Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Amen. Amen. Et alors un autre verset qu'on ne va pas forcément chercher, mais que nous lisons, c'est 2 Pierre 1, verset 16, qui dit « Ce n'est pas en effet suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Amen. Chacun d'entre nous, dans un passé proche ou lointain, nous avons un jour joué à cache-cache. Si vous n'avez pas joué à cache-cache, c'est encore le moment, vous avez encore le temps de retrouver votre enfant intérieur et de recommencer ce genre de jeu. C'est un jeu très comique et très simple, il ne faut pas être très intelligent pour le faire, enfin quoique. Et ça consiste à se cacher quelque part, un jour on est à plusieurs, et on se cache quelque part avec pour objectif que l'autre ne nous trouve pas. Et donc, quand ce sont des grands endroits où il y a beaucoup de cachettes, eh bien, il y a moyen de faire preuve d'inventivité, de créativité. On va vraiment chercher à se mettre dans l'endroit où l'autre qui me cherche ne me trouvera jamais. Le jeu du cache-cache. Alors, évidemment, le but du jeu, du cache-cache, c'est qu'on ne nous trouve pas. Et donc, plus on commence des parties et plus on arrive à se cacher sans être trouvé, plus on a des points. Vous avez déjà joué à ça? Vous vous rappelez de ce que c'est, Francis, à des lointains souvenirs? C'est tellement loin, mais tu as joué à cache-cache, je te l'assure. Tous les enfants ont un jour joué à cache-cache. Alors c'est intéressant le jeu de cache-cache parce que quand on s'y intéresse à ce jeu, c'est exactement le contraire de ce que Dieu fait. Le cache-cache, c'est le contraire de ce que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu est caché, il n'est pas visible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il fait tout pour qu'on puisse le trouver. Dieu est le Dieu invisible, impossible à rencontrer, impossible à toucher, impossible à voir, impossible à sentir, parce qu'il n'est pas de l'ordre de la matière. Et même s'il est un Dieu effectivement caché, il fait tout ce qui est possible pour pouvoir être connu, pour pouvoir être découvert, pour pouvoir se révéler. Le philosophe Pascal, déjà, c'est un philosophe qui était chrétien et qui a beaucoup réfléchi, il l'appelait le Deus absconditus, c'est-à-dire le Dieu caché. Ah oui, c'est pas le dadaïsme, mais c'est bien quand même. Hein. C'est le Dieu caché, le Dieu qu'on ne voit pas. Le Dieu qu'on ne voit pas. Et ça, c'est une vérité biblique qui est au cœur de ce qu'on appelle la révélation. On part du principe qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est impossible de le voir. Même avec des bonnes lunettes, même en ayant fait beaucoup de recherches, même avec un microscope ou avec un télescope, on ne peut pas voir Dieu. Le Dieu caché. C'est la Bible qui nous dit, dans 1 Timothée 6, qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme ne peut ni voir, ni ne peut voir. Il habite une lumière inaccessible. La Bible nous dit aussi, dans 1 Timothée 1, 17, « Or, au roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Et dans Exode 33, 20, il est dit, « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Dieu est le Dieu qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas rencontrer. Et pourtant, comme on l'a chanté dans le début de ce culte, la grandeur et la puissance de notre Dieu, sa bonté, c'est qu'il fait tout pour être le Dieu découvert. Il est celui qui est caché, effectivement, mais qui se cache dans des endroits où il est sûr qu'on pourra le trouver et qu'on pourra le rencontrer. Le Dieu qui veut se révéler, le Dieu qui veut se dévoiler, le Dieu qui veut se faire connaître, le Dieu qui veut que le monde le voie. Et ça, ce n'est pas juste un élément de théologie, c'est le projet de Dieu pour toute l'histoire de l'humanité. Dieu veut se faire connaître aux hommes, Dieu veut avoir une relation particulière avec chacun des hommes. Il est un Dieu tellement amoureux de l'humain, tellement soucieux de l'humain, son image, la créature qui est créée à son image, qu'il fait tout pour que l'humain puisse le trouver. Et la première chose qu'il fait, Aurélien nous en a parlé longuement, c'est qu'il crée un univers qui est marqué de sa présence, qui est marqué de sa personne, pour qu'au travers de l'univers, déjà, il se révèle. Dieu se révèle dans la création, au travers de la grandeur des astres, au travers de la grandeur des cieux, la grandeur de la terre, grandeur de la mer, mais aussi la grandeur de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, au travers de la beauté des choses que nous voyons, du corps humain, Dieu se révèle. Il se fait connaître aux humains au travers de la création. C'est le psaume 19 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Les cieux racontent, les cieux expliquent, les cieux dévoilent, les cieux parlent de la grandeur et de la majesté de Dieu. Au travers de cette création, Dieu trouve un moyen pour se faire connaître aux hommes, pour que les hommes puissent le voir, pour que les hommes puissent le connaître, pour que les hommes puissent le rencontrer. Alors ça, c'est vraiment là, on appelle ça le Missio Dei, la grande mission de Dieu. La grande mission de Dieu, se faire connaître, se rapprocher des humains pour avoir une relation particulière avec elle. La révélation de Dieu dans la nature, comme on l'a dit, nous parle de sa bonté, nous parle de sa puissance, nous parle de sa gloire, nous parle de sa divinité, nous parle de sa justice, nous parle de cette gloire, de cette puissance, de cette toute puissance qu'il est. La nature nous donne un aperçu de la grandeur et de la puissance de Dieu. Nous avons déjà là un cadeau de Dieu qui nous permet de le rencontrer. Dieu se révèle dans la nature. Dieu se révèle, Dieu se dévoile aussi dans sa parole, évidemment. Alors, et au travers de sa parole, il permet que nous puissions le connaître. La Bible, ce n'est pas un livre à retenir, un livre à lire pour le plaisir. C'est un livre au travers duquel Dieu se fait connaître, au travers duquel l'homme peut entrer en relation avec Dieu, au travers duquel l'homme peut le connaître, l'homme peut rentrer en relation avec sa personne, avec sa nature, avec qui il est. Imaginez quelqu'un qui n'a pas connu son parent, qui a un parent qui est mort au moment de sa naissance, il ne connaît pas son parent, il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais entendu, et il hérite de la maison de son parent, et dans le grenier, c'est rempli de toutes sortes d'archives, dans lesquelles il y a des journaux intimes, dans lesquels il y a des diplômes, des cours, des papiers, des documents, des photos, plein de choses. Quand il entre dans le grenier, et qu'il fouille cet homme, dans les affaires de son parent qu'il n'a pas connu, son objectif, ce n'est pas d'avoir des informations ou d'avoir des photos. Il veut connaître celui qu'il n'a pas connu. Au travers de l'Écriture, nous rencontrons Dieu. L'Écriture, c'est un média par lequel Dieu se révèle, Dieu se fait connaître aux hommes. Dieu se révèle dans sa parole. Et puis, ultimement, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître aux hommes au travers de son Fils. Il est devenu possible de contempler Dieu au travers de son Fils, au travers de Christ. Et la Bible nous dit dans Hébreux 1 que Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous avons en Jésus le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Dans Colossiens 1:15, on nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Dieu se révèle au travers de Christ. L'image du Dieu invisible, celui par lequel les hommes peuvent entrer en relation avec le Dieu qu'on ne voit pas. Le créateur de toutes choses, le Dieu qui remplit l'univers de sa gloire. Ce Dieu-là peut être rencontré au travers du Christ qui est son image, l'image du Dieu invisible. En Christ, nous avons la révélation de l'existence de Dieu. En Christ, nous avons la révélation de la nature de Dieu. En Christ, nous avons la révélation de la volonté de Dieu, la manifestation du plan de Dieu. Christ nous révèle qui est Dieu. Christ nous révèle son amour, sa sainteté, sa puissance, sa justice. Christ est Dieu lui-même. Il nous montre, il nous manifeste qui est Dieu. Notre Jésus. C'est Jean 1, 14 qui nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi, le chemin qui mène au Père. Mais bien plus, quand Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, après tout ce temps que tu as marché avec moi, tu n'as pas encore compris que celui qui m'a vu, a vu le Père. Voyez, Jésus-Christ, c'est la révélation ultime de Dieu. C'est l'acte le plus loin que Dieu ait été pour se faire connaître des hommes. Il est entré dans la chair, il s'est incarné pour que les hommes puissent entrer en contact avec lui. La révélation suprême de Dieu est en Christ. Le dévoilement suprême de Dieu est en Christ. Quand on parle de dévoilement, par exemple, c'est comme quand on parle d'une découverte. C'est la différence entre une découverte et une invention. Une découverte, c'est quand on trouve quelque chose qui existe déjà, mais qui n'était pas visible, qu'on ne pouvait pas toucher. Et donc, on dit qu'il y a un dévoilement. On dévoile quelque chose qui n'était pas visible, qui était voilé, se montre. Donc, au travers de Christ, Dieu se dévoile. Dieu montre qui il est. On dit parfois ça, que quelqu'un se dévoile. Quand on côtoie quelqu'un quelque temps, et puis qu'après, les commodités sont finies, les gens deviennent eux-mêmes, et puis on dit, ah, il se dévoile maintenant. Un peu comme avec Jean-Pierre, ce que j'ai vécu avec Jean-Pierre il y a quelques années, quand Jean-Pierre s'est dévoilé, j'étais tout perturbé, parce que c'était... Voilà, le dévoilement, n'est-ce pas? Il y a des choses qui étaient cachées, des choses qu'on découvre. Et bien c'est ça, en Christ. En Christ, nous avons le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile, Dieu se montre, Dieu se révèle à nous pour que nous puissions le connaître. Personne n'a vu le Père, a dit Jésus, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Il a vu le Père, lui. Christ est la révélation la plus complète de Dieu. Matthieu 11, 27 dit, « Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut le révéler. » Arrêtons-nous quelques instants. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut le révéler. C'est le moment où on saute sur nos chaises. C'est le moment où on part en criant de joie. Parce que toi, parce que moi, parce que chacun d'entre nous, nous sommes des hommes et des femmes à qui Dieu s'est révélé. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu au travers du Christ, qui ont reçu Christ dans leur vie, qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Maître, et au travers du Christ qui est en nous, nous avons rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à nous d'une façon intime, personnelle. Ce n'est pas juste la révélation globale de Dieu dans l'univers, ce n'est pas la révélation de Dieu globale, générale de Dieu au travers de l'Écriture, c'est la révélation personnelle de Dieu pour chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, si nous sommes ici et si nous croyons au Fils de Dieu, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu qui a bien voulu nous révéler qui il est. Il a bien voulu nous révéler qui il est. Alors que des hommes sur cette terre, sur cette planète, vivent sans savoir que Dieu existe, sans savoir qu'il y a un Créateur, sans savoir qu'il y a une vie après la mort, sans savoir qui a fait toutes choses, sans savoir qu'il y a au-dessus d'eux un Dieu plein de bonté, plein de justice, plein de grâce, sans savoir le plan de Dieu, sans savoir la volonté de Dieu, ils vivent dans l'ignorance complète de l'existence de Dieu. Mais chacun d'entre nous, nous avons fait une rencontre avec Dieu. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a adhéré à des propositions théoriques, morale. Simplement, qui s'est enfermé dans des idées qu'on lui a mis dans la tête. Ben oui, Dieu est comme ceci, le credo. Ce n'est pas quelqu'un qui a adhéré à un courant de pensée philosophique, qui s'est dit, ben, j'ai lu un bouquin, ça me semble cohérent, ça me semble logique, ça me semble plausible, alors j'y crois. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a cru par procuration, qui s'est dit, bon, comme l'autre croit, que j'ai confiance en lui, ben, je vais lui faire confiance. Le chrétien, c'est celui qui a fait une rencontre avec le Dieu de l'univers au travers du Christ. Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est fait connaître à nous. Il nous a révélé son existence, il nous a révélé sa nature, il nous a révélé son être. Même si nous avons grandi dans la foi, même si nous avons été éduqués dans une famille chrétienne, quel que soit notre parcours, nous avons rencontré Dieu. Dieu s'est fait connaître à nous. Vous connaissez certainement le combat des gens qui naissent sous X, par exemple, qui ne connaissent pas leurs parents. Vous avez déjà certainement vu des films de ce genre-là sur TF1, souvent sur TF1 que ça passe, ou sur AB3. Vous ne regardez pas la télé, vous, c'est vrai, j'ai oublié. Mais des gens qui naissent sous X, qui ne connaissent pas leurs parents, mais il y en a qui font des combats de toute leur vie pour rencontrer mon origine, d'où est-ce que je viens ? Quelle est ma famille ? D'où est-ce que je viens, moi ? De quoi est-ce que je suis né ? Et de la même façon, nous avons eu la révélation d'où vient le monde, d'où nous venons, d'où est-ce qu'il va. Nous avons la connaissance qu'il y a un Dieu dans l'univers qui a créé toutes choses. Nous avons la connaissance que ce Dieu est un Dieu personnel, un Dieu qui se fait connaître, un Dieu à qui on peut parler, un Dieu qui peut nous entendre, un Dieu qui soutient, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est plein de bonté, plein de grâce, plein de sollicitude. Nous le connaissons de façon toute personnelle. Pour le chrétien, la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre invisible, mais une rencontre bien réelle. Dans le monde d'aujourd'hui, on s'imagine toujours que ce qui est invisible n'est pas vrai. Que ce qui est invisible n'existe pas. Or, ce qui est invisible, en Christ, c'est une réalité. Nous avons réellement rencontré Dieu. Nous avons réellement rencontré Christ. Dans la Bible, on a souvent des récits de la rencontre des hommes et des femmes avec Dieu. Et à chaque fois qu'on a ce genre de récit, les gens qui rencontrent Dieu dans la Bible, il leur reste quelque chose après. C'est-à-dire qu'ils font une rencontre qui a un impact sur eux, si bien qu'ils ne sont plus les mêmes. Quand Moïse allait sur la montagne et qu'il allait rencontrer Dieu, vous vous rappelez ce que la Bible dit, quand il redescendait, son visage était resplendissant. Son visage était resplendissant, si bien qu'il devait mettre un voile. Et donc, quand il était devant Dieu, ben, il retirait le voile et Dieu lui parlait comme un ami, dit la Bible. Et puis, lorsqu'il redescendait vers les hommes, il mettait un voile parce que son visage était resplendissant. La rencontre avec Dieu a eu un impact sur lui. Quand on lit l'histoire de Jacob qui a rencontré l'ange, mais dont on sait qu'en fait l'ange, c'est Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il boitait. Lorsqu'il est sorti du lieu de la présence de Dieu, il a été impacté, il s'est passé quelque chose pour lui. Il boitait. Lorsque Étienne a été au moment de son martyr, dans Actes 6, on nous dit que son visage ressemblait à celui d'un ange. Et alors, Paul, on a lu le récit, et la même chose, on a vu le récit de la transfiguration, dans lequel Jésus avait ce visage resplendissant, mais dans le texte de Actes, où c'est Saul qui rencontre Dieu, eh bien là, il devient aveugle. La rencontre avec Dieu a un impact sur les hommes. Les hommes et les femmes qui rencontrent Dieu ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes. Il y a des rencontres dans une vie qui changent tout. Qui changent tout. Il y a des gens qu'on ne peut pas rencontrer sans que nos vies ne changent pas. Et le chrétien, c'est celui qui a fait une rencontre, une expérience personnelle avec Dieu, une expérience de communion, une expérience de transformation qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, mais qui est bien réel. Il s'est passé quelque chose le jour où nous avons rencontré Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de peur. Quand on tourne vers Dieu les regards, il se passe quelque chose. Une communion directe avec Dieu, une expérience véritable avec Dieu au travers du Christ. Alors qu'on a dit que Dieu se révèle au travers de la création, on a dit que Dieu se révèle au travers de sa parole, et maintenant, nous devons arriver à la réalité qui nous concerne. Dieu veut se révéler au travers de nous. Après s'être révélé au travers de la création, après s'être révélé au travers de la parole, Dieu veut se révéler au travers de chacun d'entre nous. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour se faire connaître aux hommes. Le monde n'a pas vu Dieu. Le monde ne sait pas qui est Dieu. Le monde n'a aucune idée de à quoi ressemble Dieu. C'est une abstraction même de dire Dieu. Personne n'a une idée de ce que c'est. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour se faire connaître aux hommes. Dieu se dit, mais le monde ne me connaît pas, le monde ne m'a jamais vu. Alors je vais prendre Elisa et je vais me faire connaître à Elisa. Je vais faire en sorte qu'Elisa me connaisse, qu'elle découvre qui je suis, qu'elle découvre ma bonté, qu'elle découvre mon amour, qu'elle découvre ma grâce, qu'elle découvre ma patience, qu'elle découvre la profondeur de mon être, ma majesté, ma puissance. Et puis quand Elisa va me connaître, quand elle saura qui je suis, elle pourra aller montrer aux gens qui je suis. Et au travers d'elle, je pourrai me faire connaître à tous ces gens de ma génération qui ne me connaissent pas. Je vais la prendre, je vais la modifier, la transformer, je vais lui permettre de me rencontrer intimement, personnellement, pour que quand elle ira auprès des autres, les autres puissent me voir, puissent me découvrir. Et puis quand les autres vont parler avec Elisa, ils vont se dire, tiens, elle a un discours bizarre. Elle parle d'une fin. Je sais pas, il y a quelque chose quand elle parle, une bonté, là, on dirait une miséricorde. Je ne sais pas comment trop on appelle ça. Ils ne sauront pas ce que c'est. Mais au travers d'elle, Dieu se fera connaître. Ils vont sentir Elisa. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle sent? C'est pas Hugo Boss? C'est pas... qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas Chanel? Ça, son papa ne voudrait pas de toute façon. Son papa, non, il n'y a pas de Chanel. Si tu veux, il y a du désodorisant dans les toilettes et ce serait beau comme ça. Et quand ils vont sentir, ils vont dire non, c'est pas Chanel, c'est pas Hugo Boss, elle sent Dieu. Elle sent Dieu. Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, personnellement, en fonction de qui nous sommes, pour rencontrer les hommes de cette génération. Et chacun d'entre nous, nous révélons Dieu par quelque chose de particulier. Nous ne révélons pas tous Dieu de la même façon. Chacun d'entre nous, nous révélons Dieu au travers d'un aspect de notre personnalité, de notre personne, de notre façon d'être, de notre caractère absolument unique. Nous révélons Dieu d'une façon absolument unique. Il y a des gens qui révèlent Dieu par leur bonté. Ils sont tellement bons, ils sont tellement gentils, ils sont tellement remplis d'une bonté qui n'est pas terrestre, qui révèle Dieu au travers de leur bonté. Samuel révèle Dieu au travers de sa bonté. Il est gentil. C'est la gentillesse incarnée. Et c'est vrai, hein, vous voyez, vous savez que c'est vrai. Au travers de nous, d'autres au travers de leur sagesse, d'autres au travers de leur justice, d'autres au travers de leur intégrité. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit d'où nous venons, quelle que soit notre personnalité, chacun d'entre nous, Dieu veut nous rencontrer d'une façon personnelle, d'une façon intime, pour que nous puissions être ceux par lesquels il va se faire connaître aux hommes. Dieu nous utilise pour se révéler. Alors, nous révélons Dieu par la vie de la foi. Premièrement, nous révélons Dieu, nous manifestons Dieu, nous montrons qui est Dieu par la vie de la foi. Déjà, quand nous sommes là, à l'église, et que nous chantons, le fait de parler, d'exprimer notre foi, c'est une révélation de Dieu. Quand on chante « Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu », eh bien c'est entre nous, évidemment, il n'y a personne pour nous voir, mais nous révélons, nous parlons, nous exprimons la fidélité de Dieu pour qu'elle ne reste pas cachée, mais qu'elle soit vue. Lorsque nous chantons, que nous chantons la bonté de Dieu, nous voulons que cette bonté de Dieu ne reste pas cachée, mais qu'elle soit vue par la vie de la foi, par l'expression de notre foi, nous révélons Dieu. Lorsque nous prions, nous révélons Dieu. Quand quelqu'un est assis là, en train de parler, et qu'il n'y a personne, on ne voit rien, il révèle Dieu. Son attitude, son cœur est en train de révéler l'existence de Dieu. Parce qu'il s'adresse à un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vraiment, un Dieu qui est existant, même si on ne le voit pas, même si on ne le touche pas. Un Dieu qui est réel. Nous révélons Dieu par la confiance que nous avons dans ses promesses. La confiance que nous avons dans ses promesses. Il y a une dame qui était justement au café expressé que vous connaissez. Et alors elle vient et puis elle vit des choses difficiles. Et alors elle dit, quelqu'un lui dit, ben, en tout cas courage pour ce que tu vis, courage pour ta vie, courage pour ta difficulté. Et puis elle répond, mais je crois et j'espère, je crois, j'espère. Elle voulait dire, en fait, je me fonde sur la promesse de Dieu, je crois en Dieu, je mets mon espérance en Dieu. Quand tu espères en Dieu, quand tu te fondes sur une promesse de Dieu, lorsque tu te fondes sur une parole de Dieu, que tu agis en te disant, je garde cette paix sur base de ce que Dieu me promet, je garde cette paix parce que Dieu veille sur moi, je garde cette paix parce qu'il prend soin de moi, tu révèles Dieu. Ton attitude, ta confiance, ta sérénité que tu places sur la parole de Dieu, elle révèle le fait que Dieu est ce qu'il est. Elle révèle l'existence de Dieu. Premièrement, nous révélons Dieu. Nous sommes appelés à révéler Dieu par la vie de la foi. C'est ça, la vie de la foi, c'est la vie de l'invisible. Ce n'est pas la vie de l'irréalité ou du fantasme, c'est la vie de la réalité, mais de la réalité invisible, de la réalité qu'on ne peut pas voir. Deuxièmement, nous sommes appelés à révéler Dieu par notre ressemblance à Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 1, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui serait livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Devenez des imitateurs de Dieu. Quand on imite quelqu'un, on lui ressemble, n'est-ce pas? Quand j'imite Francis, je lui ressemble. C'est vrai. Moi, je parle comme Francis. Vous avez déjà remarqué ça? Vous n'avez jamais remarqué? J'ai la foi comme Francis. Parce que je l'imite. Quand on imite quelqu'un, on lui ressemble. Quand on devient imitateur de Dieu, quand on est imitateur de Dieu, on commence à lui ressembler, on commence à manifester qui il est. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, marchez dans la charité, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour Dieu. Et on a dans l'Écriture, comme ça, tout un ensemble de versets qui nous invitent à la ressemblance vis-à-vis de Dieu, qui nous invitent à laisser Dieu nous transformer en son image, à sa ressemblance. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Au travers de notre miséricorde, nous manifestons qui est Dieu. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Quand on dit revêtez-vous d'entrailles, ça veut dire que ce n'est pas juste une façon de vivre, c'est que au plus profond de nous-mêmes, revêtez-vous d'entrailles à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on parle d'une maman et qu'elle a peur pour son enfant, elle dit « mes entrailles ». Ça veut dire le plus profond, le plus intime de moi. Revêtez-vous à l'intérieur de vous-même, dans l'intime de vous-même, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Au travers de ces entrailles qui ressemblent à Dieu, nous manifestons qui est Dieu. Nous permettons aux hommes et aux femmes qui nous côtoient de voir une portion de qui est Dieu. C'est sûr que ce n'est pas en arrivant au travail lundi matin que les gens vont tous tomber en disant « Ouh là là !» Non, mais au travers d'un aspect, notre façon d'être, Dieu se montre, Dieu se révèle. C'est Winston Churchill qui disait « J'ai arrêté d'écouter ce que les gens disent. Je regarde ce qu'ils font, leur comportement ne ment jamais. J'ai arrêté d'écouter ce que les gens disent. Je regarde ce qu'ils font parce que leur comportement ne ment jamais. Notre comportement ne ment jamais. C'est au travers de notre comportement que nous pouvons manifester qui est Dieu. C'est 1 Jean 4, verset 2 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Encore une fois, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres et de cet amour que nous manifestons, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Vous connaissez ce verset de Jean 17 qui nous dit que à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ils sauront. Ils sauront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se révèle au travers de nous, au travers de l'amour que nous nous donnons, au travers de ce que nous sommes, au travers de notre comportement. Dieu montre aux hommes qui il est. Il leur donne une idée de ce qu'il est. Ainsi donc, nous sommes appelés à être ses témoins, à être les témoins de Dieu, les témoins du Christ. Ça veut dire pas juste appeler à être des gens moraux, polis, gentils, bien comme il faut. C'est plus que ça. C'est réellement avoir été marqué par notre rencontre avec Dieu, parce que nous savons de Dieu, par la façon avec laquelle Dieu s'est révélé à nous personnellement, tellement marqué que nous devenons capables de manifester qui est Dieu. Marqué de la présence de Dieu, marqué du contact avec Dieu, marqué de la contemplation de Dieu. On contemple quand on lit l'Écriture, quand on médite, quand on regarde, quand on prie, tellement marqué de qui est Dieu que lorsque les gens nous voient, ils ont un petit aperçu de qui est Dieu. Et ça, c'est le véritable témoignage. Ce n'est pas le témoignage du chrétien qui n'arrête pas de parler, c'est le témoignage du chrétien qui a rencontré Dieu. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En justice, il y a plusieurs types de témoins. Il y a les témoins visuels, il y a les témoins auriculaires. Les témoins visuels, ce sont les témoins qui ont vu quelque chose. Ben, les témoins qui ont vu quelque chose, ils vont expliquer devant le juge qu'ils ont vu, effectivement, que Patrick a volontairement foncé dans une friterie. C'est pas vrai, encore une fois, Patrick ne fait pas ça. Il l'a fait exprès, voilà, le témoin va dire, mais moi j'étais là, j'ai vu Patrick, c'était bien lui, un beau monsieur, stylé et tout, c'était lui, et j'ai bien vu que quand il est arrivé dans la friterie, il a foncé, il l'a fait exprès. Ça c'est les témoins visuels. Les témoins auriculaires ou les témoins indirects, c'est les témoins qui ont entendu quelque chose. C'est les témoins qui vont dire, ben moi j'étais dans le métro, j'étais assis, et j'ai entendu un gars qui disait, ben oui, on ira à la Belfius ce soir, et on la braquera. Ben, le témoin auriculaire et le témoin visuel, ce sont des témoins qui racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Et puis, il y a un troisième type de témoin. C'est ce qu'on appelle en justice les témoins de moralité. Les témoins de moralité, ce ne sont pas des gens qui ont vu quelque chose, ce ne sont pas des gens qui ont entendu quelque chose, ce sont des gens qui ont connu d'autres gens et qui viennent devant le juge dire ce qu'ils savent de cette personne. Par exemple, en cour d'assises, quand on juge les meurtres, les viols, enfin les crimes les plus graves, il y a toujours un moment où on reçoit les témoins de moralité. Les témoins de moralité, ils n'étaient pas là lors du meurtre, ils n'y connaissent rien, eux. Ils viennent juste dire, je connais l'accusé, je le connais, et voici ce que je sais de lui. Et voilà, moi j'ai côtoyé Jean-Marie pendant des années, je peux vous dire que c'est un homme travailleur, qui fait toujours ce qu'il doit faire en temps et en heure, qui est très rapide, c'est un homme gentil, c'est un homme généreux. Donc il vient et il explique ce qu'il sait de la personne, ce qu'il connaît d'elle, pour permettre aux gens qui vont juger de savoir qui est la personne. Alors voyez la différence entre un témoin visuel qui dit ce qu'il a vu. Un témoin visuel, il dit ce qu'il a vu. On peut voir des choses et mal les voir et mal les comprendre. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on a vu un homme alors que c'était un autre. Un témoin auriculaire, bah oui, il a entendu des choses. Il sait, il a vu, ok. Mais un témoin de moralité, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui vient vous dire ce qu'il connaît de quelqu'un. Il a rencontré une personne et il vient vous expliquer qui est cette personne. Ce témoin-là, il a beaucoup plus de poids que celui qui vient juste dire « j'ai vu, j'ai entendu ». Ainsi donc, chacun d'entre nous, nous n'avons pas vu la résurrection de Jésus. On n'était pas là. On n'a jamais vu Jésus. On ne l'a jamais entendu de nos oreilles. Mais chacun d'entre nous, on le connaît. On connaît qui est Jésus. On sait qui il est. Et comme témoin de moralité, on est envoyé auprès des hommes de notre génération, non pas pour raconter un récit de ce qui s'est passé, de ce qu'on aurait vu, de ce qu'on aurait entendu, mais pour parler de celui qu'on connaît, du Dieu que nous connaissons, du Dieu que nous connaissons intimement, du Dieu que nous avons rencontré, un Dieu qui nous a impacté, qui nous a changé, qui nous a vraiment rencontré au plus profond de nous-mêmes. Soyons des témoins, non pas des témoins qui parlent beaucoup et qui racontent, mais des témoins qui ont rencontré et qui parlent de ce qu'ils ont rencontré, qui manifestent ce qu'ils ont rencontré. Si moi, par exemple, on m'appelle en témoignage pour parler d'Evelyne, mais ça va avoir beaucoup de poids, parce que je suis tout le temps assis à côté d'elle, donc je la connais, je sais qui c'est. On va dire, bah oui, si lui, il le dit, il a forcément raison. Si on demande de parler de Jean-Pierre, on va dire, bah, évidemment qu'il a raison. Je vais leur expliquer. Monsieur le Président, si vous voulez faire plaisir à Jean-Pierre, si vous voulez vraiment lui faire un bon cadeau, mais vraiment un cadeau qu'il ne va pas oublier, c'est une chose très simple, Monsieur le Président, écoutez-moi bien. Vous lui donnez rendez-vous à 1h, à midi par exemple, et vous arrivez un quart d'heure après. Parfait. Là, il sera content, il sera aux anges. Là, vous allez voir, sa joie va... Voilà. Donc quand on connaît quelqu'un, on sait raconter des choses, mais c'est beaucoup plus valeureux que quelqu'un qui aurait dit, qui l'aurait vu ou qui l'aurait entendu. Soyons des témoins qui avons rencontré Dieu, personnellement, dans nos cœurs. Le pape François a dit ceci. Le témoin de l'Évangile est celui qui a rencontré Jésus-Christ, qui l'a connu, ou mieux, qui s'est senti connu par lui, reconnu, respecté, aimé et pardonné. Et cette rencontre l'a changé, l'a touché en profondeur. Elle l'a rempli d'une joie nouvelle, d'un nouveau sens pour la vie, et cela transparaît, se communique, se transmet aux autres. Je vais quand même le redire parce que vous n'avez pas bien écouté. Le témoin de l'Évangile, c'est celui qui a rencontré Jésus-Christ, qui l'a connu, ou mieux, qui s'est senti connu par lui, reconnu, aimé, respecté, aimé, pardonné. Et cette rencontre l'a touché en profondeur et l'a rempli d'une joie nouvelle, d'un nouveau sens pour la vie. Et cela se transparaît, se communique, se transmet aux autres. Le témoin de l'Évangile, il n'a pas appris par cœur des choses à dire. Il a rencontré quelqu'un et il peut en parler. C'est le même pape François qui disait « Surtout, soyez témoins à travers de votre vie de ce que vous communiquez. Soyez témoins au travers de votre vie de ce que vous communiquez. » Nous avons donc un appel à être authentique, à être cohérent. Nous sommes témoins par nos actions, par nos paroles et nos comportements. Et au travers de tout cela, un autre Dieu transparaît et se communique aux autres. C'est enfin Saint François d'Assise qui disait « Prêchez toujours l'Évangile et si nécessaire, avec des paroles. » Prêchez toujours l'Évangile et si nécessaire, avec des paroles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « Soyez des témoins de l'Évangile et parlez quand c'est nécessaire. » Mais soyez des témoins, des gens qui l'ont rencontré. Quelqu'un d'autre qui dit, ne dites à personne que Jésus l'aime si vous n'êtes pas prêt à l'aimer vous-même. Les gens ne peuvent voir de Jésus que ce que vous laissez transparaître. Les gens ne peuvent voir de Jésus que ce que vous laissez transparaître. Il s'agit donc de communiquer, de manifester qui est Dieu auprès des hommes et des femmes de notre génération. Alors évidemment, la révélation de Dieu, elle sera parfaite lorsque Christ reviendra. Nous ne savons pas révéler Dieu dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, puisque nous ne pouvons le révéler qu'au travers de ce que nous sommes, dans des rencontres personnelles. Il y aura une révélation suprême de Dieu quand Jésus reviendra dans les airs, quand il reviendra sur la terre, quand il sera vu par tous, même par ceux qui l'ont percé. Mais en attendant, nous avons deux choses à faire. Une première chose, nous avons à être remplis de reconnaissance parce que Dieu s'est fait connaître à nous. Nous avons besoin d'être reconnaissants envers Dieu, de dire merci Seigneur, parce qu'au travers de Jésus, tu t'es fait connaître à moi. Merci parce que je ne vis pas en ignorance de qui tu es. Je ne vis pas en ignorance de ta volonté, en ignorance de ta nature, en ignorance de ton plan. Je te connais personnellement, intimement. Nous avons à abonder en actions de grâce, comme le dit l'apôtre, pour dire merci Seigneur pour cette rencontre. Comme quelqu'un qui a rencontré son idole, de celui qui voulait toujours voir. J'ai vu Johnny, j'ai vu Eddie Mitchell, j'ai vu... Nous avons rencontré le Dieu de l'univers. Soyons reconnaissants pour cette grâce, pour cet amour, pour cette joie de le connaître. Et puis deuxièmement, soyons ces témoins, de vrais témoins, des témoins qui l'ont vu, des témoins qui l'ont rencontré dans leur cœur, qui ont fait cette expérience personnelle, une expérience personnelle de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa patience, et qui sont capables de le faire connaître aux autres. Demandons à Dieu que Christ transparaisse, se communique au travers de nous. Amen.